Bonjour, c'est Fendoel pour Proxy Jeux et nous sommes en train de dépuncher une boîte de jeux. Voilà, c'est du live. Nous sommes en train de dépuncher une boîte de Samurai Spirit, un jeu de Antoine Boza, édité chez Funforge et qui se joue jusqu'à 7 joueurs. Donc ça, c'est un coopératif pour 7 joueurs. Et qui se joue en à peu près 45 minutes, je crois. 45 minutes, 1 heure pour le temps.
C'est entre 20 minutes et 45 minutes.
20 minutes et 45 minutes. On va essayer de tenir assez longtemps. Alors nous sommes en train de choisir nos personnages en fonction du look, donc ils ont tous une transformation. Donc j'ai pris Heihachi qui se transforme en raton laveur, ça me correspond tout à fait.
Samurai Spirit, c'est un jeu coopératif dans lequel vous jouez une équipe de samouraïs qui allait défendre un village contre des bandits qui attaquent le village. Le village est composé de fermes, de familles et de barricades. Les brigands, quand ils vont entrer, ils vont commencer par d'abord brûler les barricades, ensuite brûler les maisons, et ils vont également tuer des familles, si vous ne les avez pas défendues. Comment est-ce que ça se passe? Vous avez donc chacun un samouraï devant vous, qui a chacun un pouvoir spécial, qui est représenté par ces petits jetons de pouvoirs spéciaux. Hop. Donc je vous expliquerai l'effet un petit peu plus tard. Vous avez également un kiai, qui est votre super pouvoir de samouraï, que vous déclenchez au bout d'une certaine valeur, c'est-à-dire au bout d'un certain nombre de brigands que vous allez combattre. Vos valeurs sont différentes les uns des autres, puisque vous êtes chacun un samouraï différent. Donc il y en a qui sont à 8, il y en a qui sont à 9, il y en a qui sont à 10. Et qui vont déclencher plus ou moins tard du coup leur pierre. De l'autre côté de la tuile, donc ici vous avez le côté humain du samouraï, et de l'autre côté de la tuile vous avez son esprit animal que vous allez déclencher quand il va prendre des blessures. Puisque la première fois qu'un samouraï prend une blessure, on le marque comme ça par un jeton blessure sur sa tuile de personnage. La deuxième fois qu'un samouraï prend une blessure, on va enlever le jeton blessure, retourner la tuile du personnage du côté de l'esprit animal, et dorénavant il ne jouera plus que de ce côté-là. Il ne se retransformera jamais en humain. En fait, c'est parce qu'il a été attaqué, il a encaissé plein de coups, et du coup, il est super vénère, donc il se transforme dans son esprit animal. Sa valeur, du coup, augmente, donc il peut encaisser plus de dégâts, enfin plus de brigands, du côté animal que du côté humain. Voilà. Là, une fois qu'il est sur le côté animal, s'il prend une blessure, ça va. En revanche, dès la deuxième blessure du côté animal, il meurt. Et si un samouraï meurt, tout le monde a perdu, puisque c'est un full co-op. Donc la partie s'arrête instantanément. Et tout le monde a perdu. Voilà. Donc maintenant, comment ça se passe? Chacun votre tour. À votre tour, vous allez tirer une carte comme ça de la pioche des brigands. Et la révéler à tout le monde. Sur une carte, vous avez plusieurs éléments différents. Je vais prendre celle-là. Hop. Vous avez ici une valeur qui est la valeur de combat du brigand. Donc là, par exemple, c'est un 2. C'est le plus faible. Ça va de 2 à 6, en sachant que sur la première manche, il n'y a que les 1, 2, 3, 4. Sur la deuxième manche, on rajoute les 5. Et sur la troisième manche, on rajoute les 6. Puisque ça se passe donc en 3 manches. Si ce brigand, je décide de le combattre, je vais le mettre du côté droit de mon plateau, 2, et je vais augmenter ma jauge de 2. J'ai encaissé 2 coups de brigand. Un brigand de force 2. La pénalité s'appliquera si au début du prochain tour, la carte n'est pas recouverte. C'est-à-dire que si ce brigand-là est toujours découvert, je vais brûler un élément du village. Vu que là il reste encore des barricades, ce sera une barricade qui va brûler. Plutôt que de le combattre, je peux décider de le mettre en défense. Tous les brigands n'ont pas d'icônes de défense. Donc vous serez obligé de les combattre. Celui-ci, il a l'icône de famille, donc je peux le mettre en face de l'icône de famille du côté gauche de mon plateau de personnage. Ce qui veut dire que j'ai défendu une famille grâce à lui. En fait. Je suis un peu servi comme bouclier humain. Voilà. Bien sûr, on ne peut mettre qu'une seule carte en face de chaque icône de défense. Donc là, vu que j'ai utilisé mon icône de famille, si jamais je retire un autre brigand avec l'icône de famille, le symbole de famille, je ne pourrai pas le mettre en défense. Je serai obligé de le combattre. Voilà.
Donc, est-ce qu'il vaut mieux mettre des samouraïs avec une plus forte valeur en défense plutôt que... Enfin, des ennemis.
Ça peut être une façon d'absorber plus de coups. Parce qu'effectivement, si tu prends que des 4, tu vas très très vite arriver à ton 10. Et il faut savoir que arriver à ta valeur de Kiai, donc là, ici pour Katsuhiro, merci, pour Katsuhiro, c'est 10. Donc si tu arrives à 10, tu vas déclencher ton pouvoir spécial, ce qui est une bonne chose. En revanche, si tu dépasses de 10, tu vas tomber dans les vapes et mettre le feu du coup à un élément du village, puisque tu n'es plus là pour défendre ton poste. Donc un brigand en profite pour aller mettre le feu. En sachant qu'à partir du moment où tu es tombé dans les vapes, tu passes ton tour pour le reste de la manche. Pas pour le reste de la partie, mais vraiment pour le reste de la manche. Donc tu ne sers plus à rien, à tes petits camarades, pour toute une manche. Donc si tu tombes très vite dans le tour, ça fait qu'ils auront eux plus de brigands à encaisser, et donc eux risquent de plus vite tomber. Et donc potentiellement vous pouvez vous laisser déborder par les brigands. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention aux valeurs. Donc effectivement, mettre les samouraïs qui ont des valeurs assez hautes en défense, ça peut être une bonne chose parce que ça t'approche moins de la valeur. En revanche, si par exemple tu es à 6 et que tu prends un 4, ça va te permettre de déclencher ton Kiai qui est à 10, et donc là c'est une bonne chose de le prendre. Voilà. C'est vraiment un peu un stop en haut encore, donc il faut vraiment bien jauger les risques que tu prends en termes de valeur par rapport aux cartes qu'il y a. La troisième option dans ton tour de partie, enfin dans ton tour de joueur, donc soit tu décides de combattre, donc tu mets à droite, soit tu mets à gauche pour la défense, soit tu peux décider, avant de regarder la carte, de ne pas combattre le brigand, de le laisser s'infiltrer dans le village. Donc du coup on le passe directement dans la pioche des infiltrés qui est en haut du village, et tu vas en contrepartie de ça aider un de tes camarades samouraï. Aider, donc soutenir un samouraï, c'est lui prêter ton pouvoir spécial, ton talent, pour un tour. C'est pour ça que c'est sous la forme de petits jetons. Du coup tu prends ton jeton et tu le donnes au samouraï de ton choix, en sachant que toi, même si tu l'as prêté, tu peux quand même t'en servir. En l'occurrence, vu que tu vas pas combattre, ça ne risque pas trop de s'appliquer. Mais c'est pas parce que tu l'as prêté qu'au tour prochain tu ne l'auras pas. Automatiquement, que le samouraï à qui tu l'as prêté s'en serve ou ne s'en serve pas, tu le récupères de toute façon. Voilà. Donc maintenant, les talents spéciaux. C'est des talents que vous pouvez utiliser pendant votre tour. Et qui sont donc chacun uniques. Lui, par exemple, Kyuzo, il peut ignorer une attaque d'un brigand dont il a déjà combattu la valeur. C'est-à-dire que si, là, j'ai tiré un 2, si elle avait déjà eu un 2 à droite de son plateau, elle aurait pu tout de suite le défausser. Donc ne pas le combattre, ne pas le mettre en défense, et tout de suite le mettre au cimetière, qui est ici, sur la gauche du plateau.
Juste ton pouvoir, tu l'as tout le temps ou est-ce que tu l'as... Tu peux jouer quand ?
Alors, tu peux le jouer quand ? Généralement, c'est au moment où tu gères le brigand.
C'est-à-dire que tu vas le jouer une fois durant tout le la...
Non, pas du... non, c'est une fois à chaque tour. Tu peux t'en servir à chaque tour, c'est vraiment pas c'est systématique. En revanche, les pouvoirs en général s'appliquent au moment où tu dois gérer un brigand. Par exemple, celui-là, donc c'est au moment de le combattre, tu peux le défausser s'il a la même valeur. Celui-ci, il ignore les pénalités de tous les brigands dont la valeur est paire. Donc lui, par exemple, même s'il est visible, lui, il inflige une blessure normalement. S'il n'est pas recouvert. En l'occurrence, vu qu'il a son pouvoir, il ignore la blessure que lui va lui infliger au début de son prochain tour. Voilà. Toi, par exemple, au moment où tu reçois une carte paire, donc que tu viens de piocher, tu peux décider de la passer à ton voisin de gauche ou à ton voisin de droite. En l'occurrence, c'est vachement pratique, ce qui convoit très bien avec ton voisin de gauche, qui lui ignore les pénalités des personnages paires, enfin des brigands paires.
Il y en a qui n'ont pas de pénalité.
Il y en a qui n'ont pas de pénalité. Il y en a. Il y en a donc, il y en a qui n'ont pas d'icône de défense, il y en a qui n'ont pas de pénalité, et il y en a qui n'ont pas de petite flamme. Les flammes en bas à droite de la carte, elles se font, voilà, elles se font au moment, à la fin de la manche, quand vous aurez donc. Alors, déjà, la fin de la manche, ça se passe, vous allez épuiser la carte des brigands. Dès que vous avez fini la carte la pioche des brigands, pardon, on va résoudre l'attaque des infiltrés. Donc tous les brigands qui se sont infiltrés pendant la manche, on va retourner les cartes une par une dans l'ordre de la pioche et on va appliquer les effets. Lui, si je le retourne, vu qu'il a des flammes en bas à droite, il va mettre le feu à un élément du village. Donc on va enlever un truc. Lui, par exemple, vu qu'il n'en a pas, il se passe rien. Il court au milieu du village en hurlant comme un dératé, mais il fait rien. Il a plus de peur.
Il fait peur.
Il fait très peur. Mais il met pas le feu. Voilà. Et donc on va faire tout ça. À la fin de la manche, il faut que vous ayez au moins une ferme et une famille encore en jeu pour passer à la manche suivante. Il faut qu'il y ait quand même des survivants pour continuer à les défendre. Voilà. Si le village est complètement rasé, globalement... voilà. Quoi d'autre ? Alors, on va jouer en mode normal. Pas super easy et pas super difficile. Le mode normal, quand les fermes prennent feu, on va pas appliquer la pénalité des fermes. Normalement, les fermes, dans le mode difficile, quand elles prennent feu, on applique la pénalité. Donc là, par exemple, elle met le feu. Donc ce sera. Voilà. Là, elle met le feu à une autre ferme. Là, elle met le feu donc à un élément. Donc ça peut être une barrière. Donc. Là, on enlève une famille. Là, on subit une blessure, etc. Voilà, les familles, si jamais il en reste encore en vie à la fin de la manche,
comment ça marche, la défense ici,
donc voilà. Elle nous aide. Donc par exemple, celle-ci enlève une blessure à un samouraï, celle-ci, elle enlève la première carte des infiltrés, et celle-là, elle reconstruit une barrière, une barricade. Voilà. Donc si vous en avez perdu, plus vous en perdez, et moins vous avez de bonus à la fin de soutien.
On refait une manche avec le même setup qu'on a laissé à la fin de la manche précédente.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui a brûlé reste brûlé. Vous repartez par contre à zéro sur votre jauge. Si par contre vous avez des blessures, vous les conservez. Si vous êtes sur le côté animal, vous restez en côté animal, puisque vous repassez jamais du côté humain. C'est juste la jauge qui revient à zéro. On enlève donc toutes les cartes qui ont été utilisées pendant la première manche sont récupérées, même celles qui sont dans la défausse, celles des infiltrés et celles que vous avez autour des plateaux. On ajoute autant de lieutenants, donc les 5, que de joueurs. Et à la troisième manche, on fait exactement la même chose, sauf qu'en plus on rajoute les chefs, qui sont donc les 6. Pareil, même nombre de joueurs plus. Enfin, même nombre de joueurs, pardon. Voilà. Voilà. Alors, les cailles. Alors, oui, il y a des pénalités de fin de partie, effectivement. Enfin, la fin de manche. Donc, une fois qu'on a fait les infiltrés, on va regarder si vous avez bien défendu. Par samouraï, chaque icône qui n'est pas défendue va inclure une pénalité sur le village. C'est-à-dire que ici, c'est des paysans, le premier. Si vous n'avez pas défendu le paysan, vous prenez une blessure. Si vous n'avez pas défendu de ferme, on met le feu à une ferme. Si vous n'avez pas défendu la famille, il y a une famille qui meurt. Et c'est par samouraï. C'est pas... s'il y en a un, c'est pour tout le monde. C'est vraiment chacun d'entre vous, on va le faire un par un. Et donc, si vous n'avez pas bien défendu, bah, concrètement, tout le monde peut mourir à ce moment-là. Voilà. Et je crois que c'est tout. Petit à petit, les combos vont apparaître en fait entre les pouvoirs des samouraïs. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire des belles actions d'esquive et de gestion des brigands.
Merci Doria.
De rien.
Donc la partie commence très très bien, nous en sommes à peu près au troisième tour, nous avons déjà deux personnes dans les vapes, tout est merveilleux. Voilà, on a Doria et Misha qui sont out, c'est à moi de piocher, ceux qui ont déjà joué les, ceux qui savent jouer. Eh bien...
C'était pour vous montrer ce qu'il fallait pas faire. C'était complètement volontaire.
Donc je pioche un 3 et je combats le 3. Suivant.
Il est mort.
Non, évanoui.
Quand est-ce que vous revenez dans la partie ?
À la prochaine manche. Donc, quand vous aurez fini le tas là, des brigands, qu'on aura appliqué toutes nos pénalités parce qu'on n'a pas défendu avant de tomber dans les vapeurs. Ouais, tout va bien. On est tombé devant la porte,
là,
comme ça.
Ça veut dire que ça, non. Je peux pas le mettre là, en fait. De toute façon, je peux le mettre là-dessus. Mais tu peux le mettre là-dessous et que je...
Ouais. Alors, juste pour décrire mon tour, donc à mon tour, je pioche une carte et je... place ma carte donc soit à gauche, soit à droite. Donc à gauche, elle va me permettre de protéger certaines parties du village. À droite, je vais encaisser les dégâts. Et le but du jeu, c'est d'essayer de pas tomber dans les vapes, a priori, dès le début, et d'essayer de terminer le paquet. Ah, donc là, j'ai une blessure à mon tour. Et donc, une nouvelle carte qui vient se poser. Voilà.
Carte, c'est un 3.
Donc, avant-dernière carte, on brûle un petit peu le village. Je prends un dégât. C'est à Laurence.
Pourquoi c'est un 3?
C'est un 3, oui. Là, il ne peut pas donner une carte.
Tu le mets en défense. Tu peux pas?
Non. Non.
Là, elle n'applique pas le malus?
Si. Bah si, t'appliques le malus. Mais non, mais
elle n'a plus de voisins.
J'ai plus de voisins. Donc, on
brûle un truc.
On brûle un truc.
On
n'a pas d'infiltré.
Donc du coup, je suis dans le vape. Hein.
Sans infiltrer, le village va brûler tout seul. Donc, là, c'est la panique.
Toi, tu peux pas te défendre. Donc, ça brûle.
Voilà. Pourquoi
on va... Bah oui, parce que t'es dans le vape.
T'es KO.
Ah oui, t'es assommé. Et pourquoi la première, alors?
Donc, étonnamment, je suis le dernier samouraï debout de cette première manche.
Ah oui.
Avec encore 2 points de vie, donc c'est super.
Et ceci dit, la pioche est terminée.
Et la pioche est terminée. Je suis toujours debout. Donc nous survivons, nous gagnons cette première manche.
D'abord, nous résolvons donc la pioche infiltrée, il n'y en a pas. En revanche, vu que la majorité des samouraïs autour de cette table sont tombés avant de défendre famille, paysans et fermes, on va appliquer tous les malus. Donc là-bas, on perd une ferme, Frouche et une famille. Frouche. Ici, tu prends une blessure, donc tu te transformes en animal. C'est le paysan que tu n'as pas sauvé.
Ah, d'accord.
Qui te donne une blessure. Ici, on brûle une ferme, couche, et tu prends une blessure. Moi, je prends une blessure, donc je me retourne, hop, en animal. Et
on brûle une ferme.
On brûle pas la famille, on la tue.
Ah, hein. Non.
On brûle les fermes, on tue les familles, on reste
excuse-moi.
Relativement civil.
Et moi, rien.
Et on survit.
Et on survit encore.
Là, c'est la deuxième manche de manière complètement improbable avec ce départ.
Vous avez dit qu'il fallait pas que j'aille.
Mais en même temps, t'as pioché que des familles. C'est assez bizarre.
Début de deuxième manche, donc on est tous requinqués. 3 samouraïs qui sont déjà transformés et 2 qui sont encore en état. Très cocasse, donc je viens de décéder, donc c'est moi qui avais fait tenir tout le monde à la première. Première manche, et là on est en train de... Voilà, donc mon personnage est mort. C'est pas vrai. Et deuxième round, bah, je m'effondre, trop blessé, et puis voilà. C'est triste. Donc bonjour, ici Fendoel pour Proxy Jeux. Je suis avec Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour. Ah, bonsoir.
Qui es-tu Philippe?
Je suis le gérant des éditions Funforge.
D'accord, donc ce soir on est à une soirée pour jouer à Samurai Spirit.
Ouais, pour découvrir en avant-première, privilège extraordinaire, ce jeu magnifique d'Antoine qui arrivera bientôt.
Donc il arrive quand?
Alors, il arrive, on va le présenter à Essen, en en avant-première mondiale et il arrivera en France théoriquement vers mi-novembre.
D'accord. Et sur Essen, on pourra l'acheter éventuellement ?
Oui, ouais, il y aura des boîtes de disponibles à l'achat. On aura des boîtes en anglais, en français et en allemand pour le public allemand sur place.
Ouais. D'accord. Avec quelques goodies ou des choses comme ça, vous êtes familier de la chose ?
Il y aura un goodie qui est une carte. C'est le 8e boss. C'est une carte, c'est un boss, donc c'est théoriquement on les voit assez rarement dans les parties parce qu'on n'arrive pas forcément toujours à la troisième manche. Et c'est un boss qui a un pouvoir inédit, voilà, dont on peut tout à fait se passer, mais qui est sympathique. Donc il sera disponible.
D'accord. Funforge, c'est aussi un Kickstarter à succès récemment qu'on a vu sur justement les plateformes de crowdfunding pour un autre jeu d'Antoine Boza.
Ouais, Tokaido version collector.
Alors lui, il a été pledgé, enfin il a été financé avec succès et donc il devrait être disponible quand, enfin la version, donc c'est une version de luxe, c'est bien ça, et elle devrait être disponible quand?
Alors oui, c'est une version collector, c'est plusieurs versions collector en réalité. Il y a une version très très collector vraiment qui est réservée au backer de la campagne, et il y a une version qui va être une version, on va dire, collector normale, c'est-à-dire une version améliorée du jeu de base avec quelques figurines qui ne seront pas peintes, des pièces en métal, etc. Enfin, une belle édition qui, elle, sera disponible en boutique plus tard. On n'a pas encore de date exacte sur la sortie de ce projet-là. La version destinée au Kickstarter était annoncée pour novembre. Ça, c'était la date qu'on avait annoncée initialement au tout début de la campagne, sachant que pendant la campagne, se sont ajoutés pas mal d'éléments non négligeables, comme une extension qui va être incluse dans la boîte, qui s'appelle Matsuri et qui va sortir également en standalone, mais plus tard, l'année prochaine, et des figurines peintes qui sont un gros défi. Parce qu'on souhaite quand même atteindre un niveau de qualité qui est suffisamment correct, on va dire, pour une édition collector. Ça a été un gros défi. Tout ça risque de délayer un peu la sortie de la disponibilité de cette version collector de un ou deux mois. On pense, voilà, on cravache en ce moment sur la dernière ligne droite de cette production.
Donc a priori pour Noël, peut-être le début d'année prochaine.
Peut-être plutôt le début d'année prochaine, malheureusement. On aurait vraiment, et on continue à essayer d'espérer rendre le jeu disponible avant Noël, parce qu'on se doute qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient l'offrir. Voilà. Malheureusement, on est nous aussi tenus par les délais des usines, voilà, de tous nos prestataires. Il y a un défi logistique qui est assez important sur ce type de projet, qui est beaucoup plus compliqué que juste livrer à un distributeur et envoyer des boîtes aux boutiques. On a mis en place 3 plateformes logistiques dans le monde, une en Asie, une aux États-Unis, une en Europe. Ça a été compliqué. Il faut d'abord faire venir les jeux de l'usine jusqu'à ces plateformes logistiques et ensuite que les plateformes logistiques fassent le dispatch aux particuliers. Donc ça part pas directement de l'usine aux particuliers. Ça implique des délais de livraison supplémentaires. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est fort probable que ce soit plutôt en début d'année prochaine, janvier a priori. Ouais.
Est-ce que vous comptez peut-être retenter l'aventure des Kickstarter bientôt ?
Ouais, tout à fait. Kickstarter, c'est une façon différente d'éditer les jeux aujourd'hui pour nous. C'est un outil dont on s'est doté pour pouvoir éditer des jeux qui ne verraient pas le jour autrement, qui ne pourraient pas décemment voir le jour autrement. On n'a pas en projet de faire tous nos jeux sur Kickstarter, ça n'a pas de sens. Le but, c'est d'utiliser cet outil-là pour faire des jeux qui soient vraiment particuliers. Soit une édition collector comme Tokaido n'aurait pas pu voir le jour sans Kickstarter. On a d'autres projets, bien sûr, dans les tuyaux qui sont suffisamment ambitieux pour être trop ambitieux pour une édition normale sans passer par le financement participatif.
Si quelqu'un voulait tenter de créer son propre Kickstarter, est-ce qu'il y aurait des, par exemple, avec l'expérience que vous avez, quels seraient peut-être les conseils ou quelles seraient les choses que vous n'auriez pas, peut-être pas tout à fait fait pareil, si tu as une réponse à cette question ?
Tout dépend du quelqu'un en question. Je serais tenté de dire le véritable écueil de Kickstarter aujourd'hui ou des plateformes de financement participatif, c'est paradoxalement leur avantage, c'est-à-dire que ça attire beaucoup de gens qui ne sont pas des éditeurs, qui ont envie de faire financer des projets. Le vrai danger, c'est que l'argent ne fait pas tout. Et la différence se fait vraiment sur le savoir-faire, les réseaux qu'on a. Moi, je vois tous les défis que c'est en fabrication, en logistique, les coûts que ça engendre, qui sont colossaux. On a toujours tendance à voir la partie visible du Kickstarter en se disant ils ont gagné énormément d'argent. En réalité, les coûts sont énormes sur des choses que normalement on ne supporte pas quand on fait une distribution classique d'un jeu. Donc moi vraiment
par exemple sur quel point,
par exemple le transport pour te donner un ordre d'idée, le transport moyen d'une boîte en moyenne, hein, parce que c'est très variable suivant les pays, d'une boîte depuis l'usine jusqu'à l'adresse d'un particulier, ça va coûter entre 30 et 40 $. Donc quand tu sais qu'on a 5500 personnes qui ont soutenu le projet, tu fais le calcul et t'imagines le coût simplement logistique que rien que le transport représente. Donc c'est vraiment colossal. Il ne faut pas sous-estimer ces parties-là. Le vrai danger pour quelqu'un qui lance un Kickstarter aujourd'hui sans expérience de l'édition ou sans expérience de la logistique, de la fabrication, de tout ça, ce serait d'ignorer ces postes-là et du coup de tomber dans des pièges qui feraient que le Kickstarter deviendrait en réalité un cauchemar. Vraiment un cauchemar qui mettrait et on a déjà vu le cas, hein, y a des projets qui ont périclité, des gens qui se retrouvent en difficulté personnelle à cause de ça. C'est des projets qui demandent, comme n'importe quel autre projet, à être mûri et à être prêt avant d'arriver sur la plateforme. Malheureusement, beaucoup trop de gens pensent que on vient, on finance et on verra les problèmes après. Il faut vraiment les avoir prévus avant, réellement. C'est le seul conseil que je pourrais donner, c'est soyez prêts avant.
Est-ce que Funforge est passé au travers de la mode des zombies, ou est-ce que vous aurez vous aussi votre jeu de zombies?
Alors tout dépend ce que tu appelles un jeu de zombies. Si tu parles de zombies à proprement parler, non, on n'aura pas de jeu de zombies. Si tu parles de jeu de type survival, oui, on aura un jeu de ce type là. Ouais.
Faut en dire plus.
Ah bah, bientôt. Il faut venir à SN.
D'accord, bon, bah, très bien. Donc on aura peut-être un jeu de survival à Essen qui sera présenté.
Il y aura une avant-première qui sera présentée. On va commencer. On a commencé à lâcher des petites choses depuis plusieurs mois, volontairement, qui étaient vraiment à l'état de bribes, sans aucune explication. C'était.
On parle de quel jeu ?
De ZNA, dont le Z ne veut pas dire zombie, mais tout le monde pensera que le Z de ZNA veut dire zombie. C'était c'était presque fait exprès.
Mince, ça veut dire quoi ?
Ah ben, tu sauras plus tard. Donc on va commencer à en parler plus avant SN et un prototype sera présenté sur le salon. C'est vraiment un prototype en cours de travail. C'est destiné à être un Kickstarter qui va être lancé peu de temps après SN.
Donc en fait, on change pas complètement de sujet.
On change pas complètement de sujet, non. Ça fait partie de ces projets qui sont. C'est un projet colossal, à vraiment plus d'un titre, et c'est un projet qui pourrait pas voir le jour sans Kickstarter. Et c'est pour nous aussi un plaisir de pouvoir utiliser ces outils-là pour pouvoir travailler sur ce type de projet qui sont vraiment à des échelles complètement différentes. Donc oui, on aura ce projet-là et on va en dire plus. Pour les gens qui ne pourront pas venir à SN, on en dira aussi plus après SN. Et d'ici la fin d'année, vous saurez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce projet-là.
Donc a priori, ça serait un Kickstarter pour 2015 ?
Non, pour la fin d'année.
Ah d'accord, donc on est très proche.
Ouais, très proche, ouais.
Okay. Est-ce que tu veux nous parler d'autres projets ?
On a plein d'autres projets dans les cartons, de toute façon, tout le temps. C'est vital pour nous. On a globalement toujours 2 ans de catalogue prêts à l'avance. Ça nous permet d'anticiper plein de choses sur le développement et les développements en tant que tels. Il y a un projet qu'on a présenté effectivement depuis plusieurs mois, plusieurs années même, en fait, qui est vraiment parti d'un prototype, d'une idée complètement absurde, qui est un jeu de Ludovic Maublanc et Marie Cardois. Qui travaille sur ce jeu en tant qu'auteur, Marie Cardois, ouais, en tant qu'auteur et également qui l'illustrera, qui s'appelait Hopla jusqu'ici, qui pour l'instant s'appelle Clouds, qui changera peut-être, voilà, qui est un jeu...
Clouds comme nuage en anglais.
Ouais, comme les nuages en anglais, ouais. Et qui est un jeu qui est encore en développement, en mutation, qui est parti d'un petit party game complètement stupide, qui est en train de devenir quelque chose d'un peu plus évolué, qu'on essaye de rendre aussi très attrayant. On se donne le temps, ça fait partie de ces projets plaisir où on se dit on n'a pas de date particulièrement, on se donne le temps et on va voir ce que ça va devenir. On veut en faire quelque chose de bien.
Sur un autre sujet, est-ce que tu as un avis particulier? Est-ce que tu penses que pour toi ça va changer quelque chose, toi en tant qu'éditeur? Est-ce que ça va changer quelque chose, la fusion, enfin le fait que Asmodée devienne une grosse société et racheter Days of Wonder?
Pour moi, en tant qu'éditeur, alors je suis ni Asmodée ni Days of Wonder, donc ça n'a pas d'impact direct. Moi, je viens d'un milieu qui est différent, je viens du jeu vidéo. On a assisté à une concentration de ce milieu-là dans les années 90, ce qui se passe actuellement dans le milieu du jeu de société me rappelle assez fortement ce qui s'est passé à ce moment-là. Moi, ça m'a surpris, personnellement, le rachat de Days of Wonder par Asmodée. Je le comprends stratégiquement de la part d'Asmodée. Je comprends également les raisons internes à cette prise de décision chez Days of Wonder. J'en ai un petit peu parlé avec eux, je les connais plus ou moins bien. Il y en a que je connais très bien là-bas, d'autres moins. Bref, donc ça ne me regarde pas ce qui s'est passé. Ce que ça veut dire pour nous, en tant qu'éditeurs, c'est simplement, à mon sens, que le marché est en train d'évoluer, de changer complètement. Il va muter, je pense, très rapidement dans les 3-5 années à venir. Et il va se passer des choses qui sont passées dans d'autres milieux, dans le jeu vidéo, dans l'industrie du disque, dans l'industrie du film, du livre. On va avoir des très gros groupes émerger. Asmodée, c'est aujourd'hui une grosse société, c'est un gros groupe qui est en train de devenir de plus en plus gros. Il y a un effet d'entraînement qui est dirigé par toute une stratégie à terme, je pense. Il y a une masse critique qui a besoin d'être atteinte, il y a des objectifs stratégiques d'édition, de savoir-faire à intégrer. Récupérer Days of Wonder, c'était aussi pour eux récupérer du savoir-faire, en plus d'un catalogue évidemment qui est intéressant. Voilà, donc en gros aujourd'hui, nous, à mon sens, on a deux options. Soit un jour on va devenir suffisamment intéressant pour être acheté par quelqu'un, et c'est pas forcément notre stratégie, c'est pas forcément ce qu'on veut. Soit on se dote aujourd'hui, je parlais du Kickstarter tout à l'heure, on se dote aujourd'hui des moyens, je serais tenté de dire des armes, pour adopter une stratégie différente qui va être que nous, notre stratégie, notre volonté, c'est de rester indépendant. Et de rester indépendant à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de la conception, de la création, de la distribution, on ne veut pas être un studio pour un plus gros que nous, on ne veut pas avoir notre nom qui disparaît derrière le nom de quelqu'un d'autre. C'est pas ce qu'on veut, on fait pas ça pour ça. Et donc aujourd'hui, on tente, tant que faire se peut, on verra bien, l'avenir nous dira si on a eu raison, si on le fait correctement, de se doter des moyens de faire face à cette situation-là. Il y a d'autres gens pour qui je pense que la stratégie sera totalement différente, et elles se respectent toutes, la nôtre ce sera celle-ci.
Dernière question, plus sur Funforge. Est-ce que vous envisagez éventuellement des adaptations numériques de vos jeux? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?
Ouais, nous, le numérique, c'est, je disais tout à l'heure, on vient du jeu vidéo. À peu près toute l'équipe vient de ce milieu-là. C'est presque un élément naturel pour nous. Ça s'inscrit dans nos volontés, en tout cas. Après, nous, notre politique de gestion chez Funforge, c'est de mettre un pied devant l'autre. Donc, on va dans ce qu'on maîtrise. Je serais tenté de dire financièrement, dans un premier temps, parce que le savoir technique, on l'a sur ces développements-là. On peut le faire demain, mais on sait aussi, parce qu'on en vient, que c'est très cher. Voilà, c'est des risques financiers importants, et c'est très casse-gueule, hein, pour dire les choses comme elles sont. Mais oui, on le considère très clairement. Pas forcément que sous l'angle de l'adaptation numérique. Le numérique, ça permet de faire plein de choses différentes que juste un portage d'un jeu de société en un jeu vidéo. On assiste à plein de choses, on voit ce que font les éditions volumiques, par exemple, qui sont des créations super intéressantes, c'est original, c'est chouette, c'est très bien réalisé, ça change justement. On a vu Ipone, bon, je sais pas trop où ils en sont aujourd'hui, mais ils avaient une, en tout cas, une déclaration d'intention qui était intéressante. Il y a plein de pistes à explorer, et on a envie de faire ça aussi, d'explorer des pistes un peu différentes.
Et est-ce qu'il y a quelque chose de concret que tu peux me dire quant à ça, ou ça reste encore juste une idée ?
Non, c'est encore un peu trop tôt, mais ça viendra rapidement. Mais pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt.
D'accord. Et pour toi, il n'y a absolument pas de concurrence entre la version numérique qu'on va retrouver sur une tablette et la version papier, ou tu penses que ça peut être justement un parasitage ou...
Non, je pense que c'est exactement l'inverse. C'est ce qu'on a observé, et c'est ce que, justement, on parlait des off-founders, c'est ce qu'ils ont démontré par l'exemple. C'est qu'une version digitale d'un jeu physique a pour effet de créer un cercle vertueux qui, d'une part, augmente les ventes du jeu physique. Parce qu'en réalité, si tu résumes la chose, une version digitale, les gens qui vont acheter la version digitale, ils auront acheté un tutoriel de jeu et ils l'auront payé. Alors, commercialement, c'est beau. Parce qu'en gros, les gens ont payé pour apprendre les règles de ton jeu, qu'ils auront ensuite envie d'acheter dans une boutique pour pouvoir en profiter physiquement. Et de la même façon, les gens qui vont jouer à un jeu physique vont voir une pub ou voir que le jeu est disponible en version numérique, et ils auront envie d'y jouer quand ils seront tout seuls dans le train contre une IA ou en réseau avec leur ami qui n'est pas forcément à côté. Voilà, pour moi, c'est vraiment c'est complémentaire, et c'est intéressant justement d'explorer ces voies-là. Je ne crois pas un seul instant qu'une version numérique d'un jeu de société viennent marcher sur les pieds d'un jeu physique. C'est deux façons de jouer différentes, dans des circonstances différentes, tout simplement.
Donc en fait, ce que tu dis, si tu donnes un conseil à ceux qui veulent faire des adaptations numériques, c'est surtout faites un bon tutoriel.
J'ai pas de conseils à donner, hein, depuis tout à l'heure, tu veux que je donne des conseils à tout le monde. On essaye déjà de s'en donner à nous-mêmes, j'ai pas de conseils du tout à donner aux gens.
Tu viens du jeu vidéo, tu m'as dit.
Ouais, mais ça veut pas dire que, pour autant, que je suis apte à donner des conseils aux autres, tu vois. Ça ne veut rien dire. Hein. Mais non, faites un bon tutoriel. De toute façon, ça, c'est la base dans un jeu vidéo. Hein. Faites en sorte que les gens comprennent rapidement ce à quoi ils sont confrontés, ce à quoi ils jouent. Voilà. C'est clair que la première chose qu'on fait dans un jeu vidéo, ça va être de réfléchir à l'ergonomie, au tutoriel, à la courbe d'apprentissage, comment on présente les choses. C'est des notions qui sont encore plus marquées que dans le jeu de société, où on aura pas forcément envie de se reporter au livret de règles et ce genre de choses. C'est un comportement qui est différent aussi, donc il faut prendre les gens par la main, et ça demande une réflexion différente, mais c'est intéressant.
Merci beaucoup, Philippe.
Ben, c'est moi qui te remercie.
Bonjour Antoine.
Bonjour.
Je suis avec Antoine Boza, je suis fan d'OL, et aujourd'hui Antoine nous présente Samurai Spirit.
Tout à fait. Enfin, Funforge présente, se rendons à César ce qui appartient à César. Funforge présente Samurai Spirit, qui, on a un mois d'Essen, qui sort en Europe à Essen, donc dans un petit peu moins d'un mois.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce jeu? C'est un coopératif jouable de 1 à 7 joueurs. Est-ce que tu peux nous... Tu avais déjà fait plusieurs jeux coopératifs. Est-ce qu'il y a une filiation entre par exemple Anabi, Ghost Stories et Samurai Spirit?
Alors il y a une filiation dans le sens où c'est tous trois des jeux.
C'est un jeu de Boza.
C'est un de mes jeux coopératifs, donc il y a forcément une filiation, parce qu'à chaque fois que j'essaye de faire un nouveau coop, j'essaye de mettre en avant un truc différent dans chaque coop. Donc effectivement il y a une filiation. Après c'est des jeux différents, même si on va retrouver, je pense, une base commune avec Ghost Stories, dans le sens où c'est le même genre de pitch. On défend un village contre des envahisseurs qui sont représentés par une pioche de cartes. Donc si tu réduis les deux jeux jeux à ça, il y a effectivement des choses communes. Après, c'est quand même des jeux bien différents. Dans Ghost Stories, il y a beaucoup de... T'as des dés, t'as tout un aspect spatial de déplacement. Là où Samurai Spirit est beaucoup plus compact, où c'est beaucoup plus réduit à comment tu gères l'arrivée de ta pioche de cartes. Donc je pense qu'il y a... On a commencé à comparer les deux, et là, les gens qui ont commencé à jouer un peu à Samurai Spirit voilà, sont aussi d'accord avec moi à dire que c'est quand même des jeux bien différents et on n'a pas la même expérience de jeu. On retrouve des similitudes. J'espère que ceux qui ont aimé le premier aimeront le deuxième, et peut-être ceux qui n'ont pas aimé le premier aimeront quand même le deuxième. Mais voilà. Et comme tu l'as dit, dans les points forts du jeu, je pense, c'est ça joue jusqu'à 7. Ça joue, on va dire, en moins d'une heure normalement, peut-être pas la première, même à 7 joueurs. C'est un peu plus long à 7 que forcément à 3 ou 4. Donc c'est un vrai coop qui peut se jouer à beaucoup, qui tourne bien à beaucoup, selon moi. Donc c'était une des idées maîtresses du quand j'ai commencé le prototype. Je suis vraiment parti du film Les Sept Samouraïs. Je m'étais dit j'arrête de faire des jeux sur le Japon parce qu'on me fait remarquer que je fais que des jeux sur le Japon. Puis je me suis dit ah quand même Kurosawa, Les Sept Samouraïs, ça serait chouette en jeu coopératif. Allez, j'en fais encore un. Et du coup je suis parti là-dessus, donc fallait que ça se joue à 7, donc fallait que ça soit coopératif. Ça déjà j'avais pas encore le jeu, mais je savais que c'était un coopératif qui se jouait jusqu'à 7, hein, parce que c'était vraiment le pitch du film.
Et en fait l'idée de départ, c'était vraiment donc un village avec des éléments qui allaient être détruits par une attaque, quelque chose comme ça. Tu avais vraiment cette...
Ouais, voilà, avant la méca elle-même, il y avait déjà ça. Il y avait chaque joueur a un petit plateau qui était déjà dans mon premier proto, comme celui du jeu final, à savoir à la verticale, un peu dans le style japonais. Ils ont souvent... Je savais qu'il y avait un village au milieu qui allait avoir des fermes, des paysans et des barricades autour. Je savais que ça allait péter parce que des brigands allaient arriver. Après, je savais pas comment ça allait se passer parce qu'en fait, la mécanique, ça m'intéresse que très tardivement dans le projet. Mais voilà, je savais que ça allait être la pagaille, que les brigands allaient arriver et qu'il fallait se débrouiller pour sauver ce petit village tout ridicule qui sera au milieu de la table, quoi. Le truc s'est déclenché, je sais plus quand, mais à un moment où je me suis dit, ben voilà, la méca, il faut que ça soit le principe du blackjack, quoi, en fait, hein, parce que finalement, si tu regardes, c'est le principe du blackjack, à savoir, t'essayes d'atteindre en cumulant des cartes une valeur. Si t'arrives pile poil sur cette valeur, donc le blackjack, c'est super cool parce que tu déclenches ton pouvoir. Si tu dépasses la valeur, c'est moche. Donc c'est vraiment le principe du blackjack. Et la première méca qui s'est vraiment mise en place, c'est celle-là. Après, il y a plein de méca annexes sur on peut soutenir les autres, on a tous des pouvoirs différents, et ainsi de suite. Mais le premier déclenchement, en tout cas, qui a permis de faire le premier proto, même s'il était très, très simple et assez pauvre, c'était vraiment de dire, ah, j'aime bien cette méca qui est assez simple, de dire, on essaye de faire un blackjack, quoi.
Ghost Stories était réputé pour avoir une difficulté. Moi, je sais que je trouve Ghost Stories extrêmement difficile, je trouve humiliant même, parce que tu jettes un dé et voilà, quoi. Et bon, j'ai aussi un petit peu un problème avec les dés, mais à peu près, est-ce qu'on est sur un jeu qui serait aussi dur, un petit peu moins dur, ou quelque chose de où vous proposez différents niveaux de difficulté?
Alors, il y a bien sûr plusieurs niveaux. C'est peut-être l'autre point commun à Ghost Stories, c'est un jeu qui est difficile à battre. C'est un jeu qui est technique, c'est un jeu sur lequel il y a une courbe d'apprentissage qui est... ça peut être un petit format, c'est un jeu assez compact, mais il y a quand même une courbe d'apprentissage qui est importante. Et c'est un jeu où il faut accepter de se faire vraiment démolir les deux, trois premières parties. Et surtout, il faut accepter de voir tout ce qui se passe en termes d'interaction et de combinaison. C'est quand même un jeu de combo, d'optimisation. Tu verras jamais tout sur une première partie, donc faut vraiment accepter d'en faire deux ou trois pour, je pense, savourer le jeu. Et bon, après tu l'aimeras pas, hein, bien sûr, mais faut vraiment pas s'arrêter à la première partie, sachant que on est dans une époque où je sais que c'est pas forcément judicieux de faire des jeux qui demandent un peu de temps, parce que les gens ont tendance à vite passer à un autre jeu s'ils trouvent pas un plaisir immédiat dans leur première partie. Ouais, Samurai Spirit, je pense que c'est un jeu où faut accepter d'en faire trois, il faut accepter que la première ça va être pour mettre en place les règles, voir toutes les interactions, et que la première va être un peu essuyage de plâtre. Ouais.
Est-ce que ça pourrait être un bon jeu de team building? Je pense à Space Alert, qui pour moi est vraiment le jeu pour faire son équipe.
Space Alert, c'est un super jeu, mais c'est quand même super hardcore, quoi. C'est un jeu que j'adore, mais que je joue jamais, parce que s'il faut expliquer les règles à quelqu'un qui a pas joué, je passe à un jeu plus simple, quoi. De toute façon, ouais, le jeu coop, moi, c'est pour ça que j'adore ça, hein, c'est que ça génère plein de choses qui, au niveau social, sont super intéressantes. Anabi, bien sûr, est un super exemple de voir différents groupes jouer à Anabi. Ils jouent pas au même jeu, en fait, ça j'adore. Là, on est sur un jeu qui est un peu plus gamer, hein, qui est un peu plus technique. Ça va peut-être un peu plus tendu en termes d'ambiance, parce que c'est vraiment un jeu où il y a un gros challenge, donc c'est déjà pour un public un peu plus averti. Bien sûr, tu peux faire du team building. Enfin, moi, j'adore le jeu coop et je ferai encore des jeux coop dans les années à venir parce que j'adore ça, quoi. Et parce que au niveau expérience et expérience sociale, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intense, je trouve, en jeu de société, quoi.
Et je pense que t'as tout à fait raison. On vient de faire deux parties. La première, on a parlé, on était tranquille, on était vraiment à l'aise. On s'est fait étaler en un round. Et la deuxième, au contraire, on était beaucoup plus concentré. Et vraiment plus focalisé sur le jeu.
Même syndrome qu'il y a Ghost Stories, où les gens qui ont détesté le jeu ont dit c'est un jeu où on lance les dés et si on n'a pas de bol on va perdre, donc c'est nul. Et alors que les gens qui ont joué avec Ghost Stories et qui aiment le jeu te diront que tout l'intérêt de ces jeux-là, et c'est un peu le même principe pour Samurai, c'est que si tu t'en remets au hasard, tu vas gagner une partie sur 50. Tout comme si tu joues au poker sans connaître le poker, si t'as du bol, il y a une partie, tu vas gagner, mais les 49 votes, tu vas perdre. Mais là, c'est le même principe. Si tu fais juste que tirer les cartes et les poser sans réfléchir, tu vas gagner une partie sur 50 parce que la pioche va être dans le sens favorable. Mais c'est un jeu où il faut un peu réfléchir, où effectivement, faut vraiment travailler avec les autres pour optimiser. Et y a vraiment un gros challenge à relever dans ce jeu-là. Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler d'autres jeux de Boza qui seraient en préparation, pas forcément des coopératifs, des choses que tu as dans ta hotte actuellement?
Ouais, alors j'ai pas mal de choses. J'ai du coopératif qui est toujours en cours de travail. J'ai toujours Sinbad qui est un gros projet qui prend beaucoup de temps mais qui j'espère verra le jour l'année prochaine. Qui est en fin de développement, mais on sait bien que le fin de développement c'est toujours la partie qui prend le plus de temps.
Et chez quel éditeur?
Ça sera normalement une coprod, Ropoprod Matago, parce que c'est un gros jeu là, c'est grosse boîte, il y a du matériel, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup d'illustrations à faire. On n'est pas du tout dans le format de Samurai Spirit, on est sur une grosse boîte, a priori format Cyclade, tu vois, un truc un peu conséquent où il y aura du matos dedans.
Et tu peux nous en parler un peu plus?
Je peux en parler, ouais. Alors c'est un coop, full coop, hein, à nouveau, qui se joue de 2 à 6, qui pareil se tourne très bien à 6 parce que le système de jeu fait qu'il n'y a pas vraiment de tour de jeu, donc il n'y a pas de downtime en fait. Tout le monde joue à peu près tout le temps, donc ça marche très très bien à 6. C'est vraiment un jeu d'aventure, donc il va y avoir des scénarios. Un peu pour ceux qui ont joué à Robinson. Voilà, Robinson est sorti entre temps parce que moi j'ai mis beaucoup plus de temps qu'Ignacy à développer mon jeu, mais il y a un peu ce principe d'avoir un scénario différent avec différents niveaux de difficulté qui raconte une histoire, hein, même si les deux systèmes de jeu n'ont rien à voir. Hein, j'ai joué un peu à Robinson. Là, nous, on est vraiment sur Sinbad et son équipage entreprennent une quête avec un voyage maritime et des explorations sur des îles. Et il y a une méca à base de prise de risque où on constitue des groupes à la table, ce qui fait que t'as pas de tour de jeu parce que c'est pas forcément dans l'ordre des actions que tu vas choisir qui joue. Tu vas constituer à chaque fois la meilleure équipe parmi les gens présents à la table pour gérer un système d'épreuves. Et on parle d'un jeu d'aventure où il y a des monstres, hein, c'est vraiment les milieux de nuit, donc tu peux tomber sur un kraken, sur un roc, une princesse. Moi, j'essaie d'exploiter, c'est un univers que j'aime beaucoup. Voilà, avec des mechas que je pense original. Il y a de la gestion de deck, mais c'est pas du tout du deck building, c'est plus du deck debuilding en fait, où tu dois gérer ton deck sur l'ensemble de la partie, mais sans le construire, plutôt en l'utilisant petit à petit. Un truc que j'ai pas vu pour l'instant ailleurs. Donc le temps que le jeu sorte, il y en aura peut-être un qui sera sorti, hein, ça c'est possible. Mais et voilà, donc là on est sur un gros jeu avec plein de cartes parce que scénario, donc il faut du matériel différent, de la rejouabilité et des choses comme ça. Donc un jeu assez conséquent. Ça fait 4 ans et demi que je suis sur les tests. Je suis pas très lent, mais là ça commence à faire beaucoup, donc j'espère que je vais arriver à finir rapidement. En coop, c'est tout ce que j'ai. Après, j'ai d'autres jeux. Je travaille sur un projet qui s'appelle London Masterminds avec Eric Lang. Donc un jeu à quatre mains où difficile.
Qui est un auteur canadien à qui l'on doit. Donc actuellement, c'est chez Fantasy Flight Game. On a le.
Il y a XCOM.
Le XCOM, bien sûr.
Il y a XCOM et il bosse aussi sur le Marvel Dice, de Dice Game, là, que je connais pas trop, qui est la mécanique de Quarriors auquel j'ai pas joué. C'est l'un des co-auteurs de Quarriors. Il a fait le jeu de cartes Star Wars aussi, la version de joueur chez FFG. Il a beaucoup bossé chez FFG, notamment. Et là, du coup, c'est marrant parce qu'on a un jeu qui est un peu à la frontière de nos deux styles, hein, parce qu'on n'a pas du tout le même style de jeu. Donc là, on est dans un jeu qui est un peu, on va dire, l'européenne avec, c'est un jeu de placement, c'est une espèce de placement d'ouvrier, mais avec, c'est vraiment, avec un quand même un twist important sur le placement d'ouvriers, mais avec des effets asymétriques, avec un peu de texte comme on va trouver dans les jeux américains. Voilà, le jeu commence, ça fait un an qu'on est dessus, là il s'est débloqué récemment, il commence à bien marcher. Je vais commencer à le montrer à des éditeurs pour prendre un peu la température là. Je suis un peu sur Paris pour ça aussi, demain j'ai des rendez-vous. Et voilà, donc là on est à Londres en fin du 19e et on joue des cerveaux du crime qui essayent de terroriser la ville de Londres et les autorités en construisant des machines infernales, en faisant exploser les bâtiments de Londres et en kidnappant des... Donc on est dans un truc avec une thématique assez forte, voilà, là on est plus du côté américain à nouveau, mais avec une méca qui est, on va dire, un peu plus de chez nous, une histoire de placement d'ouvriers avec un petit twist, voilà. J'ai ça, j'ai un jeu que j'ai quasiment fini qui s'appelle Oceanos aussi, que je suis en train de montrer, qui est un jeu d'exploration sous-marine. Là c'est du jeu très familial, voilà, donc je sais pas trop, je peux pas t'en dire plus vu que je sais pas encore chez qui ça va aller, si ça va être ce thème, si c'est un jeu, donc je suis assez content. C'est un des jeux que j'ai développé le plus rapidement, il m'est resté 2 ans en tête et puis là en 2 mois il est quasi fini, je pense, alors que je mets plutôt 2 ans à faire un jeu d'habitude. Donc du coup je me méfie parce que ça marche très bien, mais du coup j'ai trouvé ça un peu trop facile, donc j'attends que quelqu'un me remette à ma place en me disant ton jeu il est vraiment pas terrible, mais on va voir, que je suis vraiment content de ce jeu là donc je vais commencer à le montrer. J'ai toujours du Seven Wonders, hein, forcément. Je reprends le boulot sur Armada, qui est une vieille extension, mais qui est passée après Babel, finalement, mais que j'avais commencé à développer avant. Donc là, comme Babel, ça y est, c'est fini, c'est parti à la prod, ça sort à Essen, ça y est, on est tout bon, on est en retard, mais ça y est, on est bon. Du coup, là, je me remets à bosser sur Armada et sur un petit quelque chose qui est dont je peux pas encore parler, mais qui est aussi du Seven et qui devrait arriver l'année prochaine et qui n'est pas la version 2 joueurs dont certains auront entendu parler. C'est encore un autre projet, parce que du coup quand j'en parle sous Tinoteur on me dit ah mais c'est la fameuse version 2 joueurs, non c'est encore autre chose. Donc voilà,
donc c'est le projet mystérieux de Seven Wonders.
Voilà, c'est le projet que je dois taire apparemment d'après les autorités éditoriales compétentes pour l'instant, parce qu'il est un peu tôt pour en parler, mais il y a voilà, pour ceux qui suivent Seven, il y a donc après Babel, il y a du Armada qui sortira normalement, et il y a un autre truc dans le cadre de Seven Wonders. Et je parle pas non plus de l'application iOS, ça j'y suis pour rien, ça devrait arriver à Essen aussi normalement.
Ah mais c'est bien.
Il y a pas mal de choses, ouais.
Merci Antoine. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Non, mais tu peux peut-être parler de l'endroit où on est, parce que moi c'est la première fois que je viens. Je sais, tu en as peut-être déjà parlé, mais comme moi j'arrive, je sais pas.
Alors j'en ai pas du tout parlé. C'est quoi ?
C'est le café Messia, c'est comme ça qu'on prononce, j'espère, je ne sais pas, je suis pas sûr. On n'a pas fait une interview du propriétaire, qui a un café-jeu à côté du métro Belleville. Moi, je ne suis pas parisien, il faut me corriger si je dis. Et qui nous accueille pour cette soirée Samurai Spirit Funforge, et qui est, ma foi, un endroit fort sympathique. Alors, je leur fais un peu de pub.
Non, mais c'est vrai, c'est un. Ici, on peut manger chinois, et puis. Ou asiatique, en fait. Et puis, on a des maîtres de rayonnage de jeux de société, et on retrouve vraiment tous les jeux du moment qu'on peut utiliser. C'est un endroit très sympathique. Merci Antoine.
Merci à toi.